1948 en Californie. Je vais revenir. Paul Frère. Il est actuellement professeur au Westminster Seminary de Philadelphie. Et c'est un garçon assez extraordinaire. Je veux dire un garçon parce que pour moi, c'est un très jeune, je crois. Il a né en 1946, donc il a maintenant 38 ans. Et c'est un garçon qui a eu un doctorat en mathématiques à la célèbre université de Harvard. Il a eu un doctorat en lettres. Il a un doctorat en théologie. Et donc, c'est un homme dont la culture est prodigieuse, et il a écrit un livre intitulé, en anglais c'est presque exactement comme en français, intitulé « Philosophie, science et souveraineté de Dieu ».« Philosophie, science and sovereignty of God ». C'est un livre qu'il a publié en 1976, alors qu'il avait donc 30 ans. Et je me suis servi pas mal de ce livre, en particulier dans la description qu'il fait de l'ontologie. Je me suis servi donc pas mal de ce petit ouvrage de Paul Frère. Alors c'est normal que, puisque je me suis servi beaucoup de ce qu'il a écrit, que je vous le signale. Alors, nous allons essayer aujourd'hui de décrire, sinon de définir, ce qu'est l'ontologie. Vous savez, l'étymologie peut être très trompeuse. Alors, ne croyez pas que si je fais un peu d'étymologie, là, au sujet de l'ontologie, c'est parce que j'ai une sorte de foi dans la valeur de l'étymologie. Mais là, je crois que l'étymologie est éclairante. Vous savez, puisque vous avez tous fait du grec, que vous avez le verbe être, le verbe être en grec, qui est le verbe eimi, qui donne au participe présent on, ontos, hein, et c'est donc du participe présent du verbe eimi que vient ontologie. On peut dire d'une certaine façon que l'ontologie est la science de l'être. La science de l'être. Il y a d'ailleurs un substantif qui vient donc du verbe être en grec. Et on parle quelquefois de to on. To on. Et on peut dire là que to on, c'est l'être. Je ferai allusion à un livre qui est signalé par Étienne Gilson dans son livre sur l'être et l'essence. C'est un personnage qui a été oublié. Il a un nom un peu curieux. Il s'appelle Scipion du Plaît. Et il a publié ce Scipion du Plaît en 1617. Un livre intitulé tout simplement Métaphysique. Et le chapitre 3 de la métaphysique de Scipion du Plaît est intitulé Qu'est-ce que l'état ? Qu'est-ce que l'état ? On pourrait dire Qu'est-ce que Tohon ? Qu'est-ce que l'état ? Le mot étant, Gilson, dans ce livre-là dont je vous parle, regrette qu'au fond l'étant ne soit pas un mot passé dans le vocabulaire philosophique français.
qu'est-ce qui est.
On parle quelquefois de l'existant. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le mot existant vient de deux mots latins, ex, sistere, et au fond, ex sistere, par son étymologie même, signifie ce qui tient son existence de quelque chose ou de quelqu'un. On peut dire donc que seule la création, que seules les créatures peuvent être dites existantes, parce qu'elles tiennent le fait d'exister de Dieu. Alors, si vous voulez, vous savez qu'il y a un livre qui est connu en français d'André Frossard intitulé « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Eh bien, on pourrait dire, si l'on s'en tient à l'étymologie, que Dieu n'existe pas. Dieu est, mais Dieu n'existe pas, parce que la création existe, parce qu'elle tient son existence de Dieu. Elle existe. Alors, vous voyez, faites attention, hein, parce que si vous dites trop vite à quelqu'un « Dieu n'existe pas », il se figurera que vous rejetez l'être de Dieu, le fait que Dieu est. Non, mais en réalité, on pourrait dire, sous l'étang, ce qui est, hein, il y a celui qui est Dieu, et puis ceux qui existent, les créatures. Alors, après ces quelques mots d'introduction, vous voyez que l'étymologie, quelquefois, est un peu éclairante. Je vais vous remettre un petit tableau que j'ai fait et qui décrit, au fond, l'ensemble ontologique.
Je vais vous demander de bien vouloir distribuer un peu ces. C'est seul, je pense qu'on a bien pour tout le monde.
Alors, voyez, le titre, donc, c'est l'ensemble ontologique. Alors, il y a, au fond, étant Dieu et sa création. Il n'y a rien d'autre que Dieu et sa création. Alors là, vous avez donc à gauche de votre feuille, les sciences se rapportant à Dieu, d'abord. Alors, la théologie proprement dite, parce que théologie, c'est la doctrine de Dieu, la science de Dieu, et bien alors, comme Dieu est trinitaire, vous pourriez avoir, vous devriez avoir, la science du Père, la patrologie, la science du Fils, l'uliologie et la science du Saint-Esprit, la pneumatologie. Je me suis permis de vous mettre en bas, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait de grec ou qui n'ont pas encore fait de grec, un petit vocabulaire se rapportant aux termes que j'ai employés en haut. Et bien alors, la création, vous savez que création se dit ktisis en grec. Alors, la science de la création, c'est la ktisiologie. Alors, vous avez trois parties, si vous voulez, le ciel, l'uranologie, l'homme, l'anthropologie, l'univers qui nous est accessible, la cosmologie. J'ai précisé l'univers qui nous est accessible, parce qu'au fond, nous savons bien par l'écriture que Dieu a créé des créatures invisibles que sont les anges et les créatures visibles, l'univers que nous voyons, mais en fait, nous ne pouvons pas vraiment décrire la totalité de la création. Nous ne la connaissons pas. Alors, là, j'ai appelé le domaine subhumain la tériologie, c'est du verbe grec tereo, qui signifie surveiller, observer, garder. Vous avez connu la Genèse, il nous est dit que Dieu a confié à l'homme le soin de garder, de cultiver, d'observer, de nommer, etc. Donc, la tériologie, c'est tout le domaine qui a été confié par Dieu à l'homme.
Alors, vous avez dans la cardiologie des subdivisions du règne animal, du règne végétal et du règne inorganique, hein, zoologie, botanique, inorganique. Et puis alors, vous avez entre Dieu et sa création, ce qui fait en quelque sorte la communication entre Dieu et sa création, alors c'est le médiateur. Le médiateur en grec se dit mésites, alors vous avez la mésitologie ou christologie, puisque c'est Christ qui est le médiateur, et puis vous avez aussi, parce qu'elle est notre moyen de connaître Dieu, la doctrine de l'écriture sainte. Alors là aussi en grec, vous savez que saint se dit agios, l'écriture se dit graphos, alors vous avez l'agiographologie qui est l'étude de l'écriture sainte. Alors voilà. Ça, vous laissez-le tomber maintenant pour le moment, enfin, laissez-le tomber, je veux dire, ne vous apprenez pas là-dessus maintenant, et je vais essayer donc de vous décrire l'ontologie, bien sûr, du point de vue d'une philosophie chrétienne. J'ai parlé du livre de Scipion Duclay, de sa métaphysique, et donc de ce chapitre où Duplay se pose la question ontologique dans ce chapitre 3 intitulé « Qu'est-ce que l'État ?» Qu'est-ce que l'État ? Et les philosophes de l'Antiquité jusqu'à nos jours, chaque fois qu'ils ont abordé la question ontologique, sont extrêmement divers. Il y a une diversité. Quand il est question d'ontologie, une diversité prodigieuse, et des oppositions, et même des contradictions entre philosophes. Et pour les chrétiens, et donc aussi pour les philosophes chrétiens, la réponse est toute simple. Toute simple. Vous savez, il y a je connais aussi l'histoire du nœud gordien, ben, le nœud gordien était indénouable. Et il n'y avait qu'un moyen, c'était de le trancher. Bon, eh bien, les chrétiens tranchent la question ontologique. Pourquoi ? Parce que dès le début de la Bible, et tout au long de la Bible, on nous dit très bien qu'est-ce que l'État ? Ou qu'est-ce qui est ? Le premier verset de la Bible est très clair. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ben, c'est la réponse à la question ontologique. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Dieu et sa création. Il y a Dieu et sa création. Alors ça, c'est repris dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y a mis quelques versets de l'Ancien Testament, dans Genèse 2.1, « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée, tout leur ensemble. » Genèse 2.4, voici les engendrements du ciel et de la terre après qu'ils furent créés. Dans Exode 20, 11, il nous a répété, en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et je voudrais vous citer surtout, pour achever quelques textes de l'Ancien Testament, Néhémie 9, 6, c'est une prière, c'est toi, Seigneur, toi seul, qui a fait les cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Si nous passons de l'Ancien au Nouveau Testament, où il y avait Colossiens 1,16, en le Fils bien-aimé du Père, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, à la question ontologique, sur laquelle les philosophes sont tellement divisés et parfois opposés, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce qu'il est, le philosophe chrétien, avec l'Église chrétienne, avec tout chrétien, répond d'une façon très simple, ce qui est Dieu et sa création. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'État, Dieu et ce que Dieu a créé et maintient dans l'existence. Donc, vous voulez, la réponse chrétienne, même sur le plan philosophique, est une réponse simple. On pourrait dire que la philosophie chrétienne tranche
le nœud gordien qui est constitué par la question ontologique. Les philosophes, les métaphysiciens vont discourir à perte de vue pour essayer de définir qu'est-ce que le temps, qu'est-ce qu'il est, et le philosophe chrétien, le plus savant, répond comme l'humble femme chrétienne la plus inculte, ce qui est Dieu et ce que Dieu a fait, Dieu et sa création. Donc, en abordant la question ontologique, il nous faut voir successivement, et c'est ce que je ferai dans mes derniers cours de cette année, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les 3 semaines qui viennent, nous allons essayer de voir successivement comment, si vous voulez, dans le point de vue de la réflexion philosophique, on peut décrire l'état. Et d'abord, et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui, le Créateur, Seigneur, Sauveur. Donc, si vous voulez, mon cours d'aujourd'hui va maintenant porter sur le début, je ne finirai pas aujourd'hui, mais je voudrais essayer de voir comment nous pouvons décrire Dieu dans l'ontologie chrétienne. D'abord, je remarquerai que toute spéculation autonome sur Dieu doit être exclue. Les imaginations qu'en tant qu'homme nous pouvons avoir sur Dieu, nous devons les bannir. Nous devons écarter de nous toute spéculation. Le mode spéculatif nous est interdit quand nous parlons de Dieu. Et si Dieu nous demeure et nous demeurera toujours incompréhensible, Dieu cependant s'est rendu intelligible à nous dans sa révélation, dans la révélation qu'il nous fait de lui. Alors faites attention, il n'y a pas de contradiction à affirmer Dieu est incompréhensible et Dieu est intelligible. D'ailleurs, le mot comprendre en français, là, vous voyez qu'aujourd'hui je fais pas mal d'étymologie. Le mot comprendre signifie prendre en soi et d'une certaine façon englober. Englober. Or, Dieu seul comprend toutes choses parce que Dieu embrasse toutes choses. Dieu englobe toutes choses. Tandis que nous, je ne dirais pas que nous ne comprenons rien, mais en tout cas, nous ne comprenons pas Dieu. Nous pouvons d'une certaine manière comprendre ce qui est, j'allais dire, en dessous de nous. Mais nous ne pouvons pas comprendre déjà ce qui est à notre niveau, et encore moins ce qui est au-dessus de nous. Par exemple, l'homme, peu à peu, peut de mieux en mieux comprendre ce qu'est un végétal, ce qu'est par exemple dans le règne végétal telle fleur, ce qui parmi les fleurs est par exemple la rose, et on peut étudier et comprendre pourquoi. Parce que l'homme a été placé par Dieu en situation de domination par rapport à la rose. Si je passe au règne animal, il en est de même. Je puis comprendre d'une certaine façon, pas d'une façon exhaustive, mais comprendre ce que c'est qu'un chien ou ce que c'est qu'un cheval. Et pourquoi? Parce que Dieu m'a placé dans une situation de domination par rapport aux animaux. Et là aussi, il suffit de lire le livre de la Genèse, qui est un livre tellement extraordinaire, surtout en ses débuts, mais plutôt long. Mais bon, c'est que Dieu a placé l'homme comme dominateur de toute une part de sa création. Nous sommes, nous les hommes, en situation de domination par rapport au règne minéral, au règne végétal et au règne animal. Et donc nous pouvons avoir, on peut parler là, de comprendre. L'inverse n'est pas vrai. Bien sûr, pas qu'une pierre ou qu'une rose ne puisse pas comprendre les hommes, ça va de soi. Mais même un animal, il peut avoir un certain instinct dans son rapport avec l'homme, mais l'animal ne peut pas comprendre l'homme. Nous devons être d'ailleurs terriblement incompréhensibles pour les animaux. Nous devons être très mystérieux pour les animaux. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'un chien peut bien avoir dans sa tête quand il quand il pense d'une certaine façon à son maître, ou quand il pense aux gens qui sont là aussi. Ça, c'est très mystérieux. Mais, prenons un autre niveau maintenant. Me comprendre moi-même, est-ce que je me comprends? Est-ce qu'un homme peut se comprendre lui-même? Déjà, on est très incompréhensible à soi-même. Mais alors, quand il s'agit des autres, aussi, pourquoi? Parce que là, nous ne sommes plus en situation de domination, encore qu'on parle de maîtrise de soi, on n'est pas en situation de domination par rapport à soi-même, comme homme, comme être humain, et alors, c'est la même chose par rapport aux autres. Nous ne sommes pas en situation de domination. Être humain, là, nous sommes vraiment très mystérieux. Mais alors, si vous pensez à des créatures invisibles comme les anges, sur les anges, à moins d'avoir un jour une rencontre extraordinaire avec un ange, ce qui n'est jamais arrivé, mais nous ne savons des anges que ce que la révélation de Dieu, la parole de Dieu, nous en dit. Nous savons qu'il y a des anges. Nous savons qu'il y a des créatures invisibles de Dieu. Nous savons que la création n'est pas composée seulement de la création visible, mais qu'elle est composée aussi de la création invisible. C'est ce que dit le symbole de Nicée Constantinople lorsqu'il dit que, dans son premier article, nous croyons en un seul Dieu, créateur tout-puissant de toutes les réalités visibles et invisibles. Alors, nous pouvons en comprendre quelque chose, les réalités invisibles que sont les anges, nous. Mais là encore, on est dans le domaine de la création. Je peux quand même avoir une certaine compréhension des autres hommes, et je peux d'une certaine façon me comprendre moi-même. Bon. Mais alors, si nous arrivons à Dieu, Dieu est incompréhensible. Dieu me comprend, mais je ne comprends pas Dieu. Et vous savez que, en géométrie, on emploie le verbe comprendre. Par exemple, vous pouvez avoir un cercle qui comprend d'autres cercles. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un cercle qui englobe d'autres cercles. Il peut y avoir d'autres. Des cercles compris dans un cercle. Il peut y avoir aussi des triangles, il peut y avoir une sorte de figure, il peut y avoir des fragments de droite qui sont compris dans un cercle. Bien entendu, une droite ne peut pas être comprise dans un cercle, puisqu'une droite est illimitée. Mais, voilà. Donc, voyez, pensez un petit peu au sens du mot comprendre en géométrie. On voit bien par là que Dieu comprend toutes choses, mais que nous ne pouvons pas dire que nous comprenons Dieu, parce que comprendre, c'est tenir en son esprit le reste. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'affirmer à côté de l'incompréhensibilité de Dieu, l'intelligibilité. Alors là, aussi, il faut penser à ce que veut dire le mot intelligence à partir de l'étymologie. Hein, ça vient de deux mots latins, intus, legere. Hein. Lire dans. L'idée de une certaine pénétration. Une certaine pénétration. Nous pouvons avoir une certaine idée de Dieu. Nous pouvons avoir une certaine pénétration. Mais, attention, pas de nous-mêmes, mais parce que Dieu se rend intelligible pour nous dans sa révélation de création, dans son, sa révélation universelle. Par exemple, quand, là en ce moment, je pense que vous faites comme moi, c'est passionnant, le mois de mars. On se promène là, au milieu des arbres, des plantes, et puis on voit surgir les premiers bourgeons, on voit même s'ouvrir certains bourgeons déjà. Bon, c'est du sport. Quand je regarde le monde, quand je considère le monde, j'ai une idée de Dieu comme créateur, comme seigneur. Bien sûr, la révélation universelle de Dieu me touche moi chrétien. Si bien qu'un arbre, une personne, un nuage, un oiseau, tout ce que je vois me parle de Dieu, me dit quelque chose de la grandeur du Dieu, de la divinité du Dieu, de la sagesse du Dieu. Ça me parle de Dieu. Donc Dieu se révèle à moi dans sa création, d'une manière donc universelle, et puis il me parle dans sa révélation spéciale, c'est-à-dire il me parle en Jésus-Christ, il me parle dans les Écritures saintes, il me parle en me disant son amour, en me disant qu'il est venu s'incarner en Jésus-Christ, qu'il a donné pour moi sa vie sur la croix et qu'il est ressuscité pour que je puisse ressusciter à une vie nouvelle par la puissance de sa résurrection. Alors tout cela, j'en ai une idée, j'en ai une intelligibilité, j'en ai une intelligence, mais je ne le comprends pas. Vous voyez la différence qu'il y a entre incompréhensibilité, Dieu me reste incompréhensible, et l'intelligibilité. L'intelligibilité me donne quelques connaissances de Dieu, mais non pas une connaissance de compréhension, comme si je pouvais englober Dieu alors que c'est lui qui m'englobe, comme si je pouvais le comprendre alors que c'est lui qui me comprend, mais j'ai quand même une intelligence de Dieu, une idée de Dieu. Je saisis quelque chose de ce que Dieu est. J'ai une intellection de Dieu. Bon. Alors, aujourd'hui, pour passer un nouveau paragraphe, nous allons voir les noms de Dieu. Oui, j'en prie.
On n'en a encore qu'une. Donc, c'est une intelligence beaucoup plus pleine et qui n'achèvera jamais de se clarifier. C'est-à-dire que, comme Dieu nous déborde infiniment, toute l'éternité ne suffira pas à épuiser tout ce que nous aurons à comprendre et à apprendre de Dieu. C'est pour ça que la vie éternelle, il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose de figé, parce que ce sera un progrès incessant dans l'intelligence et dans l'amour de Dieu. Une vision de plus en plus grande de ce que Dieu est. Oui.
Alors, nous allons voir la question des noms de Dieu. Des noms. Dans l'Écriture sainte, alors, les vieux théologiens, à ce sujet, parlaient de ce qu'ils appelaient les nomina propria de Dieu.
Alors, évidemment, c'est du latin qu'on peut facilement traduire en français, les noms propres de Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire, un nom propre? Un nom propre, ça veut dire un nom qui décrit la personne qui le porte. Autrement dit, ce n'est pas seulement une dénotation ou une désignation, mais c'est une connotation, c'est-à-dire d'une certaine façon une description. Et c'est important de bien voir la différence entre un nom propre et un nom commun. Un nom propre, c'est une description, une connotation, et pas seulement une dénotation ou une désignation. Alors il y a des noms de Dieu. sont une description du Dieu qui nous donne, si nous les recevons bien sûr dans la foi, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous donne justement une certaine idée de Dieu, une certaine connaissance de Dieu, disons un commencement de connaissance, un commencement d'intelligence de Dieu. Alors, essayons de voir, sinon tous les noms, tout au moins un certain nombre de ces noms propres de Dieu dans la Sainte Écriture, et nous allons commencer par l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, le premier nom de Dieu qui arrive dès le premier verset de la Genèse, vous connaissez, on vous dit, la Genèse, Bereshit, Bara, Elohim, eh bien, au commencement, Bara, créa, Dieu, Elohim. Alors, Elohim, c'est le premier nom qui nous est donné de Dieu dans la Sainte Écriture. Quelquefois, on dit plus simplement, mais c'est la même racine, on dit « et ». Alors, disons, c'est quand même Elohim. Quelquefois, Elohim est résumé, si je puis dire, simplement en disant « et ». Ça vient d'un verbe hébraïque « Allah ». Qui signifie craindre, rêver. Ceux d'entre vous qui connaissent l'anglais savent qu'il existe en anglais un mot qui n'a pas son équivalent, pardon, en français, le mot O, A-W-E, ou comme disent les anglais, E-W-I. Eh bien, O, c'est la crainte de Dieu. Mais attention, en français, le mot crainte, c'est un mot synonyme du mot peur. Craindre quelqu'un, en français, c'est d'avoir peur de quelqu'un. Tandis que, dans le verbe hébraïque, Allah, dans le verbe hébraïque Allah, comme dans le mot anglais O, ça se prononce comme ça, il y a l'idée, non pas d'une crainte de peur, mais l'idée d'une crainte de révérence. Hein? Bien sûr, il y a un certain apparentement avec la peur, mais ce n'est pas la peur. On y a dans le respect. On tremble devant Dieu d'adoration. On tremble devant Dieu d'amour. Parce que on sait que Dieu est Dieu, tandis que nous-mêmes, nous ne sommes que des créatures, et en plus des créatures pécheresses. Alors, nous avons un tremblement devant Dieu, une révérence devant Dieu, une adoration devant Dieu. Si bien que Elohim a cette idée de celui qui doit être révélé. Celui qui doit être adoré. Alors, vous avez de même racine, elle, deux autres mots hébraïques. Elion et Eloah. Vous avez la même racine, elle, dans les trois cas. Mais le sens est différent. Si vous voulez, il y a une petite précision. D'ailleurs, la racine n'est pas la même. Là, vous avez du verbe rala, qui signifie monter. Alors là, il y a une précision. Quelquefois, c'est traduit par le Très-Haut. Alors là, c'est l'idée d'élévation. Autrement dit, il nous faut révérer celui qui est au-dessus de nous, celui qui est le Seigneur. Celui qui est le Seigneur. D'ailleurs, l'idée du Seigneur est constante dans ces trois Elohim, Elion et Eloah. Alors, il y a quelque chose de commun, on doit craindre. Mais alors, la connotation particulière, dans le cas de Lennon, c'est l'idée qu'il est le très haut. Il nous faut révérer, adorer le très haut. Et l'horreur, là, c'est plus mystère. Je ne crois pas qu'on puisse faire une description plus précise au sujet des autres. Ensuite, nous allons passer à un autre mot qui est employé dans le Nouveau Testament, qui est le mot Adonai. Adonai. Là, l'idée, c'est l'idée de puissance. Adonai. Alors vous avez l'idée de puissance, parce que c'est le Seigneur, le recteur de l'univers, celui auquel tout est soumis et auquel l'homme est tenu d'obéir. Ensuite, vous avez Shaddai, où on dit quelquefois El Shaddai, on ajoute El, hein, c'est donc El Shaddai, ou Shaddai. Là, c'est un pluriel d'excellence, comme d'ailleurs Elohim, et là, l'idée aussi, c'est le Tout-Puissant. Donc on peut dire que Adonai et Shaddai évoquent l'idée de la Toute-Puissance. L'idée de la Toute-Puissance. C'est celui qui a le pouvoir sur tous les pouvoirs de la création, et celui qui réalise pleinement et infailliblement ses desseins. Alors ensuite, vous avez un mot que vous connaissez bien, parce qu'il vient du verbe être, awa, le verbe être, c'est le mot Yahvé ou Jéhovah. On ne sait pas d'ailleurs comment cela se prononçait. Autrefois, dans nos Bibles, on disait volontiers Jéhovah. Alors là, il y avait plusieurs manières d'écrire, peu importe, et de même que Yahvé, Yahvé aussi, il y a plusieurs manières de l'écrire. Yahvé, mais là, ça vient du verbe être, et on ne sait pas comment se prononcer ce mot, ce qu'on appelle le tétragramme sacré, pour la bonne raison qu'on ne le prononçait jamais. Par exemple, dans Deutéronome 6, vous avez la confession de foi d'Israël. Je pense que vous la connaissez par cœur. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, hein, c'est-à-dire le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, et aujourd'hui encore dans toutes les synagogues de la terre entière, les Juifs énoncent cette confession de foi, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Erad. Mais on dit Adonai alors que dans l'Écriture, il y a marqué Jéhovah ou Yahvé. En ce moment, vous lirez des articles dans tous les travaux sur l'Ancien Testament, il y a des disputes incessantes entre les Israélites, entre les Israélisants, pour savoir, et c'est, ça vient du de ça, comment se prononcer l'imprononçable. Quand on ne le prononçait pas, on mettait Adonai à la place. On mettait Adonai à la place. Si bien que un juif ne dit jamais le nom. Et alors ça s'appuie, ça, sur un passage de l'Ancien Testament, je crois, pas, je vous donne la référence, c'est dans le livre du Lévitique, au chapitre 24. Alors, si vous regardez au livre du Lévitique, au chapitre 24, vous avez au verset 11, « Le fils de la femme israélite blasphéma le nom et le mot. » Et on reprend un peu plus loin, au verset 16, il mourra, celui qui blasphémera le nom sera puni de mort, il mourra pour avoir blasphémé le nom. Dans nos traductions, on a ajouté de Dieu, mais c'était le nom. c'était un nom qu'on ne prononçait pas. Celui-là, on ne prononçait pas. Pour, alors là, on a essayé de faire des traductions. Une traduction courante, c'est de traduire par « je suis ». Je suis. En effet, on a des passages du livre de l'Exode, en particulier l'épisode du buisson ardent, avec la révélation de Dieu. Et il y a là les buissons qui brûlent, qui ne se consument pas. Et alors voilà que Dieu qui dit à Moïse, à Eliachère, à Dieu, je suis qui je suis. Ou encore, je suis, c'est le nom de Dieu. Alors donc c'est en rapport, vous voyez, très étroit ce nom-là avec l'ontologie. Parce qu'il n'y en a qu'un qui peut dire je suis. Nous pouvons dire j'existe. Mais je suis, il n'y a que Dieu qui peut dire je suis. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. D'ailleurs, je dirais que dans l'épisode du buisson ardent, les théologiens et les philosophes chrétiens, les pères de l'Église, les grands docteurs du Moyen-Âge, ont toujours eu un lien là entre la théologie et la métaphysique. Parce que la révélation du nom de Dieu dans le livre de l'Exode, c'est « je suis ». « Je suis qui je suis ». Et il est incompréhensible. « Je suis ». Alors, on révérait tellement ce nom qu'on ne le prononçait pas. Alors, bien sûr, on a triché un peu avec le nom. En ce sens que les massorètes, c'est-à-dire les copistes juifs, les savants juifs qui copiaient la Bible au nom du Moyen-Âge, les massorètes ont voulu donner des points voyelles. Vous savez que couramment, un juif écrit rien qu'avec des consonnes et que on voyait les voyelles. Il fallait ajouter aux consonnes selon le contexte. Le contexte de la phrase disait quelles étaient les voyelles humaines. Enfin, les massorètes ont voulu préciser le texte en mettant les voyelles. Et alors, ils ont mis aux consonnes du tétragramme sacré, les quatre consonnes du tétragramme sacré, les voyelles d'Adonai. Et alors, c'est à partir de là qu'on se pose cette question, parce que ça colle pas tout à fait, je dirais même que ça colle pas du tout. Et alors, c'est pour ça qu'il y a eu toutes sortes de spéculations. Alors, il y a ceux qui continuent à dire, il faut dire Yéhovah. Il y a ceux qui disent, non, il faut dire Yahvé. Mais il y a ceux qui me disent, il faut dire Yéhovah. Il y a toutes les formes possibles. Et alors, je le répète, pourquoi vouloir se casser la tête à mettre les voyelles qui nous permettraient de prononcer un mot que personne ne prononçait. On écrivait le tétragramme sacré, on écrivait les quatre consonnes du tétragramme sacré, mais on ne le prononçait pas. Et à la place, chaque fois qu'il y avait ce mot mystérieux, Yahvé, Yéhovah, ou tout ce que vous voulez, les mots qu'on ne prononçait pas, on mettait Adonai à la place. Alors si vous lisez votre Bible à Deutéronome 6, vous verrez qu'il est écrit là, il est écrit Chemin Israël. Yahvé, Yéhovah, Elohim, Yéhovah, Eran. Mais ce n'est pas ça qu'on dit dans la synagogue. On substitue au mot qu'il ne fallait pas prononcer, Adonai. Et alors on a Chemin Israël, écoute Israël, Adonai, Elohim, le Seigneur, notre Dieu, Adonai, Erad, le Seigneur est un.
Oui. Comment vous pouvez être au condamné à voir quelqu'un qui a prononcé le mot que
personne connaissait? Non, attendez, oui. Je dirais, on ne prononce pas, mais on peut blasphémer le nom. Si vous relisez là le passage que vous avez dit dans les Lévitiques, il s'agit de ceux qui blasphèment le nom. Si vous laissez, c'est en rapport avec le commandement, tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Ce qui revient à dire, en réalité, le vrai sens de ce commandement, c'est tu ne te moqueras pas de Dieu. Tu auras pour Dieu le respect et l'adoration que tu dois avoir. Vous voyez, c'était le vrai sens. Alors de là, on est tombé à la prononciation du nom, mais c'est secondaire. Et c'est le mot sacré. Alors, Ayuka, c'est louer. Alors là, on remplace nous on met l'éternel souvent dans les versions, mais les juifs disent louer le Seigneur. Hein? Ils disent louer le Seigneur. Et enfin, nous pouvons passer au Nouveau Testament. Alors, vous avez dans le Nouveau Testament, correspondant à Elohim ou à elle, vous avez Théos. Ce qui est le plus courant. Mais une fois, par exemple, dans Marc 5,7, vous avez Upsistos, qui signifie le Très-Haut. À la place de Shaddai, vous avez dans 2 Corinthiens 6,18 et dans Apocalypse 1,8, Pantocrator. Hein, c'est l'idée de celui qui a la toute-puissance, Pantocrator. Par exemple, les représentations du Christ en sculpture au portail des cathédrales, en particulier au portail de Notre-Dame de Chartres, c'est le Christ Pantocrator. C'est-à-dire le Christ Seigneur tout-puissant. Hein? Christus Pantocrator. Ou en grec, Christos Pantocrator, plus important. Et puis alors, vous avez le nom le plus couramment employé dans le Nouveau Testament, mais c'est parce que le Fils unique est venu le révéler, c'est le Père. C'est Pater. Hein, c'est Pater. Alors le Père. Alors ça, ce sont donc des noms de Dieu. C'est le mot Seigneur, oui, c'est ça, oui, hein, je te fais bien de le dire, j'ai oublié de le donner, vous avez évidemment Kurdos aussi, qui désigne le Seigneur. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler au sujet de l'anthologie, les noms de Dieu, ou plus exactement, les noms inappropriats de Dieu, les noms propres de Dieu, nous donnent une certaine description de Dieu. De Dieu, justement, comme celui qui est, celui dont le nom est Je suis, parce que seul il est, au fond, n'a l'être en lui-même, par lui-même, et éternellement, n'a l'être que Dieu. Donc, on peut dire que c'est le nom imprononçable qui, malgré tout, on ne le prononce pas, on l'écrivait avec le tétragramme sacré, et là, vous avez une certaine description de Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui seul peut dire « Je suis ». Alors donc, ça donne une idée de l'éternité de Dieu. C'est pour ça que dans nos livres, quelquefois, on met l'éternel. Moi, je vous avoue, mais ça c'est purement personnel, je n'aime pas dire l'éternel. Mais pas lire l'éternel, je préfère faire comme on fait dans les versions anglaises, où à la place, partout où il est question de la réunion l'éternel, les anglais mettent simplement de l'eau, le Seigneur. Ils font comme font les Bibles juives, où on remplace chaque fois la parole, par respect pour le nom de Dieu. Enfin, on peut dire l'éternel, mais j'avoue que l'éternel, ça a quelquefois une connotation quand même qui n'est pas tout à fait exacte. Mais enfin, il y a quelque chose. Dans le mot éternel, il y a quelque chose. Qui est l'éternel, c'est celui qui peut dire je suis. Il est venu, il est, il sera. Hein? Donc, l'éternel. Donc, vous avez une certaine description du Dieu. Dieu, c'est celui qui peut seul dire je suis. Et puis alors, dans les autres mots, vous avez une idée, c'est celui qu'il faut révérer, qu'il faut craindre, qu'il faut adorer.
c'est celui qui est bien au-dessus de nous, le très haut. Nous, en comparaison de lui, nous sommes quasiment rien par rapport à lui. Par rapport à lui, parce que, bien sûr, comme il nous a créés à son image, nous le verrons, nous sommes quelque chose. Dieu a donné à l'homme une dignité que n'a aucune autre créature, mais par rapport à Dieu. Nous sommes peu de choses, nous sommes quasiment rien, nous sommes un sou. Qui pourrait peser l'homme trouverait dans une balance qu'un souffle plus léger encore. Oui. Par rapport à Dieu, nous. Donc là, vous avez l'idée du très haut. Aussi, vous avez l'idée qu'il est le Pantocrator, celui qui a toute puissance, qui peut faire tout ce qu'il veut. Nous avons une puissance extrêmement limitée. Nous sommes loin de pouvoir faire tout ce que nous voulons. Dieu, lui, peut faire tout ce qu'il veut. Il est le Pantocrator. Et le Dieu Pantocrator. Donc, vous voyez, les noms de Dieu ont à voir avec l'ontologie. C'est-à-dire, ont à voir avec ce que Dieu est. Et comme je vous le disais, donc, il y a une certaine description de Dieu dans les noms de Dieu. Mais, et ce sera le sujet de notre prochain cours, nous avons, et vous pouvez réfléchir là-dessus, nous avons, alors là, c'est un mot qui est tiré de la première de Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, nous aborderons les attributs de Dieu, ou pour employer le mot grec, là, les arrêtages de Dieu.
C'est principalement les sciences correspondantes, mais c'est le fait même de ce qui est et de ce qui existe. Alors il vaut mieux dire ontique qu'ontologie, parce que l'ontologie, c'est la science de l'être, de l'ontos. Alors il vaut mieux employer là la discussion. Et alors l'autre condition que j'ai faite, c'est au sujet de la transposition. Vous voyez, pour l'étude de la création, le ciel, l'homme, l'univers artificiel. Hein. Alors là, on a vu avec le nouveau tableau, semble-t-il, ce que c'est que l'anthropologie céleste et ce que c'est que l'anthropologie cosmique. Vous voyez, c'est, je pense, vous voyez, comme présentation, c'est un peu mieux. Mais enfin, c'est un peu parfait, perfectionniste, que vous échangez la feuille, et je pense que ça modifie grand chose en même temps. Enfin, je préfère que vous ayez des dispositions plutôt que nous. Alors, nous allons aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, étudier les attributs de Dieu. Alors, quelquefois on peut parler des vertus de Dieu, quelquefois on peut parler des qualités de Dieu, et tout ça est synonyme. En général, les théologiens parlent des attributs de Dieu. C'est pas que ce soit la meilleure façon, mais enfin, comme c'est classique, j'ai pris ce mot. Mais, si vous voulez, ce qui correspond à la chose dans le Nouveau Testament, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, lorsque l'apôtre dit aux chrétiens, vous êtes une race élue, vous êtes un peuple saint, une nation sainte, pour annoncer les. Alors, le terme grec, c'est « arétail » de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour vous répondre, donc, 1 Pierre 2, 9, hein, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer. » Alors, dans le grec, il y a les « arétails » de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, le mot grec n'est pas « les arétails ». Et le mot grec arrêté, c'est un mot qu'on trouve très rarement. Je crois même, et je vous l'affirme absolument, vous voyez, je crois que c'est la seule fois où ce mot est employé dans le Nouveau Testament. Et alors, on peut traduire, une des meilleures façons peut-être de traduire, ce serait traduire les traits de caractère. Les traits de caractère. Ou on pourrait dire aussi, ça revient au même, les caractéristiques. Hein, le mot caractère.
plus nos caractères, les caractères. Alors, je voulais bien sûr que l'on dise les attributs, les vertus, les qualités, etc. Moi, je suis un peu ennuyé de la traduction la plus courante actuellement, en tout cas, selon les idées, la Coupe de la Colombe, qui dit les vertus. Or, les vertus, moi, je ne crois pas que ce soit un mot adéquat. Je préférerais qu'on ait mis là que vous annonciez les traits de caractère, ou bien les caractéristiques, à la limite même les attributs, mais les vertus. Le mot vertu en français a une qualification uniquement morale. Les vertus, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est etc. Vous voyez, c'est d'ordre moral. Or, il ne s'agit pas seulement des attributs, disons, moraux de Dieu. Et c'est pour ça que je suis un peu ennuyé qu'on ait traduit à Rétail par vertu. J'aurais préféré vous dire encore qu'on mette attributs ou les qualités de Dieu, ou les traits de caractère de Dieu. Enfin, même si nous n'avons pas le mot français adéquat pour bien rendre le mot grec arrêté, pour que je dise Rétail, tant pis, vous voyez, je pense, ce que signifie ce mot, ce que signifie la chose. Quels sont, au fond, les traits de caractère de Dieu? Alors, nous allons donc parler maintenant, puisque nous pouvons entrer dans le langage théologique, nous allons parler donc des attributs de Dieu. Bien entendu, quand on parle des attributs de Dieu, il faut prendre garde à une chose, c'est que ce sont des attributs que l'on peut, quand vous voyez le verbe, attribuer aussi bien à Dieu, au Dieu un, qu'à chacune des personnes de la Trinité. Autrement dit, quand nous disons par exemple Dieu est tout puissant, bon, c'est juste, mais il est juste de dire aussi que chacune des personnes de la Trinité, le Père est tout puissant, le Fils est tout puissant, l'Esprit Saint et tout puissant. Donc, c'est la première chose à laquelle il faut prendre garde. Et l'autre chose, c'est que tout cela va avec ce que les théologiens appellent, on appelait ça à partir du mot latin simplicita, la simplicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité de Dieu? Ça veut dire que nous sommes à la fois composé de parties, autrement dit, on peut me couper un bras ou une jambe, à la limite, mais ça serait beaucoup plus grand, on peut me couper la tête, mais je veux dire, si on me coupe une jambe, ou si on me coupe un bras, je ne dis pas bien sûr, si on me coupe la tête, eh bien, parfois, je peux continuer à vivre, je peux continuer à vivre. Donc, si vous voulez, une partie peut être retranchée de moi, sans que l'on porte atteinte à mon moi, à mon je. Tandis que Dieu est simple. C'est-à-dire que Dieu n'est pas divisé, Dieu n'est pas divisable, Dieu n'est pas composite, Dieu n'est pas composé. C'est ça la simplicité de Dieu. Donc, faisons attention, nous sommes obligés de distinguer les attributs de Dieu. Nous allons parler par exemple de la bonté de Dieu ou de la puissance de Dieu. Mais en réalité, il faut toujours garder à l'esprit la simplicité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tout ensemble, tous ses attributs. Il est tout ensemble, toutes les qualités ou toutes les vertus que l'on va lui donner. Donc, rappelez-vous ces deux points. Hein. D'abord, tout ce qu'on dit de Dieu, on peut le dire de Dieu dans son unité, comme de chaque personne en Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est ma première remarque. Et deuxième remarque, n'oubliez pas que c'est toujours dangereux de parler des attributs de Dieu comme si ces attributs de Dieu ne s'accordaient pas avec la simplicité de Dieu. Autrement dit, les attributs ne divisent pas Dieu, les attributs ne font pas de Dieu un être composite. Dieu est simple, il est vraiment un. Et chaque attribut, n'est-ce pas, c'est ma dernière
remarque, ma troisième dernière remarque, chaque individu identifie Dieu tout entier. Par exemple, Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est justice, Dieu est sainteté. Donc, vous voyez, trois choses donc, auxquelles il faut bien prendre garde, une en rapport Dieu et la Trinité, une en rapport avec la simplicité de Dieu, et enfin, chaque attribut qui identifie Dieu tout entier. Pourquoi, cependant, est-il bon de distinguer les attributs de Dieu? C'est parce que cela nous aide à, je ne vais pas employer bien sûr comprendre, à intelliger quelque chose de la richesse de son être. Autrement dit, c'est à nous qu'il est utile, c'est pour nous qu'il est bon de distinguer les attributs de Dieu. En Dieu, il n'y a point ces distinctions. Mais la révélation de Dieu nous décrit des arrêtats, des traits de caractère différents de Dieu pour que nous ayons, nous, une certaine idée, une meilleure idée de Dieu, de l'être de Dieu. Donc, en Dieu, tous ces attributs sont vraiment un, mais pour nous, Dieu veut bien, dans sa révélation, distinguer entre ces attributs. Les pères, déjà, et les grands auteurs du Moyen-Âge, ensuite, et les réformateurs, disons en gros tous les théologiens, ont distingué, quand on parle de Dieu, et qu'on parle en particulier des attributs de Dieu, deux voies qu'ils ont appelées voies bénignes, une voie éminente, et une voie de négation. En parlant des attributs de Dieu, nous sommes obligés de suivre ces deux voies ensemble. Vous me direz, c'est pas possible, quand on suit une voie, c'est bien affaire de penser de même. Quand on parle de Dieu, il faut suivre deux voies. Ou plutôt, il faut compléter la voie d'imminence par la voie de négation et la voie de négation par la voie bénigne. Alors parlons d'abord un peu de la voie bénigne ou la voie d'excellence. La voie bénigne ou d'excellence
dire que, alors que beaucoup de gens sont
du champ, là j'ai affaire à quelqu'un qui est meilleur que d'autres. Bon, mais c'est encore relatif, la bonté de cette personne. De même, si je parle de la sagesse de quelqu'un, si je parle de la force de quelqu'un. Tandis que quand je dis Dieu est fort, Dieu est saint, Dieu est bon, je dois l'entendre de façon imminente ou je dois l'entendre de façon excellente. C'est-à-dire que je porte à l'absolu le caractère éthique que j'attribue à Dieu. Quand je dis que j'attribue à Dieu, c'est faux. C'est pas moi qui attribue à Dieu cela. C'est Dieu qui, dans la Sainte Écriture, se révèle comme étant ainsi. C'est la Bible qui me dit que Dieu est sage, que Dieu est fort, que Dieu est puissant, que Dieu est ceci ou cela. Alors, voyez-vous, quand je dis dans la Bible Dieu est fort, finalement je n'entends pas l'attribut de force dans le même sens que quand je parle d'une créature. Je suis obligé d'avoir dans mon esprit une absolutisation de la force, de même une absolutisation de la sagesse, une absolutisation de la bonté, etc. Donc vous voyez bien ce que signifie l'emploi de la voix éminente ou d'excellence quand on parle des attributs de Dieu. Mais il y a la voix de négation, ou encore on pourrait dire d'élimination. Et je suis obligé, de même que j'emprunte la voix d'éminence des éléments, d'emprunter, quand je parle des attributs de Dieu, la voie de négation ou d'élimination. C'est-à-dire que quand je parle de tel arrêté de Dieu, de telle vertu, de tel attribut de Dieu, je dois nier ou je dois éliminer tout ce que cet arrêté, cette vertu, comporte dans la créature d'imparfait ou de limité. Autrement dit, je ne prends ces attributs que dans ce qu'elle exprime de réalité positive et non pas de ce qu'elle peut comporter de réalité négative. Écoutez, je vais prendre une série d'exemples pour vous montrer ce que la Bible nous dit que Dieu est père. En ce sens que toute créature, je ne parle pas de père au sens de la personne de la Trinité, je parle de Dieu comme père en ce sens que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il veille sur toutes choses. Alors on nous dit que Dieu est père, on nous dit que Dieu est berger, on nous dit que Dieu est roc, on nous dit que Dieu est source, etc. Vous voyez d'ailleurs, c'est plus curieux, parce que on compare Dieu aussi bien à un être humain, un père, un berger, qu'à une réalité d'ordre minéral, comme le rocher ou comme l'eau. Bon. Seulement, prenez par exemple un berger. Surtout un berger des anciens temps. Berger des anciens temps, c'était quelqu'un qui était déjà son troupeau. D'accord. Mais je dirais, c'était aussi quelqu'un d'assez ignorant. C'était quelqu'un souvent d'assez crasseux. Or, bien entendu, quand je prends l'attribut, c'est l'attribut aussi. On va prendre que les adjectifs comme attribut. Dieu est berger, comme Dieu est fort, comme Dieu est sage, Dieu est berger. Et bien, à ce moment-là, je suis obligé de nier ou d'éliminer tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans l'idée de berger. Et c'est la même chose. Dieu est mon rocher, Dieu est rocher. Bon, mais attention! C'est une manière, de même que dire que Dieu est berger, c'est dire que Dieu veille sur l'univers comme sur son troupeau. Qu'il veille sur tout ce qu'il a créé, qu'il garde, qu'il protège ce qu'il a fait. Bon, dit Dieu qui est rocher. Je dois aussi procéder par voie de négation et d'élimination. Je dois éliminer, par exemple, un rocher, c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose de mort, c'est quelque chose de dur. Mais bien sûr, tout ça, par voie de négation et d'élimination, je les garde. La seule chose que je garde, c'est que un rocher, c'est ce qui tient. Un rocher, c'est ce qui est seul. On peut s'appuyer sur un rocher. On risque pas de s'effondrer. Si je bâtis sur le sable, disait Jésus, eh bien, toute ma maison sera emportée. Il faut bâtir sur le roc. Il faut bâtir sur Dieu. Parce que si on bâtit sur Dieu, ça c'est seul. Alors vous voyez que la voie de négation, d'élimination aussi, au sujet de la tribu, de Dieu, d'éliminer tout ce que cet attribut peut avoir quand il s'agit de créatures, de négatif. Alors donc, je nie le négatif, je nie le négatif, j'élimine le négatif. Négation ou élimination, on pourrait presque mettre en tout parenthèse, du négatif. Et au fond, on ne garde qu'une idée positive. Et quand on garde une idée positive, on porte cette idée positive à l'éminent, à l'excellent, à l'absolu. Vous voyez pourquoi les deux voies ne sont pas deux voies opposées ou deux voies vraiment différentes. Ce sont deux voies qui se complètent. Il faut, à propos de chaque absolu, à la fois, à chaque attribut, à la fois le porter à l'absolu, et en même temps nier et rejeter tout ce que l'attribut en question peut comporter de négatif s'il s'agissait des créatures. Alors, je pense que... Alors, je vais vous donner une petite citation qui est tirée de Bonaventure. Vous savez qu'il y a deux grands théologiens au XIIIe siècle, c'est Bonaventure et c'est Thomas d'Aquin. Et je crois que, si vous pouvez lire Thomas d'Aquin, Pierre en a parlé hier soir, ou si vous lisez que Bonaventure, vous pourrez souvent lui trouver des choses excellentes. Ce sont deux très grands théologiens chrétiens. Alors, je vous donne les dates de Bonaventure, 1221-1264. Alors voilà la citation de Bonaventure. De même que toute créature glorifie Dieu, de même tout nom attribué aux créatures peut glorifier Dieu, et cela afin que celui qui est si glorieux qu'un seul nom ne peut suffire à lui rendre justice, car il excelle tout nom, voilà la voie d'excellence, ne peut suffire à lui rendre justice, et qu'il peut être et doit être glorifié par tous les noms. Par tous les noms, ça veut dire que, regardez, si vous, je ne sais pas si quelqu'un a essayé de faire ça, de relever dans la Sainte Écriture tout ce qui est attribué à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, je le crois. Oh, peut-être. Mais c'est un travail qui dit. Chaque fois qu'on trouve un adjectif, chaque fois qu'on trouve un adverbe, chaque fois qu'on trouve un nom accolé au nom de Dieu, mais c'est formidable. Tout ce qu'il y aurait, je ne sais pas, c'est peut-être plusieurs centaines de choses. Si vous voulez, les traits de caractère qui peuvent nous aider à avoir une idée un peu vraie de Dieu, dans la Bible, c'est quasi innombrable. Il y en a des tas. Et alors, je vous dis, j'ai dit des adjectifs comme bon, comme sage, etc. Ça peut être aussi des adverbes. Par exemple, on peut dire que Dieu nous tient fermement dans sa main, ou que Dieu agit patiemment à notre égard. Bon, alors, bien sûr, on peut ramener les adjectifs et les adverbes à des substantifs. Parce que dire que Dieu est bon, c'est parler de la bonté de Dieu. Dire que Dieu agit patiemment, c'est parler de la patience de Dieu. Donc, il y a, on peut ramener tous les adjectifs et tous les adverbes à des noms. Hein. On pourrait aussi ramener tous les noms à des adjectifs. Et les adverbes aussi. Et on pourrait aussi ramener tous les adjectifs et tous les noms à des adverbes. Donc, peu importe. Mais si on prenait tout ce que la Bible attribue à Dieu par les adjectifs, par les adverbes ou par les noms, on serait sidéré. C'est parce qu'au fond, Oui, c'est un petit peu. Je comparais ça, si vous voulez, à un dessin ou à une peinture. Hein? Vous savez, s'il y a une toile, on regarde un peintre dessiner ou peindre des choses sur la toile, et bien il procède par des touches successives. Et puis quelquefois, on se demande mais qu'est-ce qu'il fait? On ne voit pas ce qu'il fait au départ, justement, il n'y a presque rien. Et puis alors petit à petit, ça se précise. Et par exemple, si vous prenez la peinture des impressionnistes, vous avez une multitude incroyable, presque de petits points qui sont posés sur la. Des petits points de couleur qui sont posés sur la toile. Mais quand vous regardez l'ensemble, une fois que alors vous voyez ce que le peintre a voulu faire. Vous avez l'ensemble. Et bien, c'est un peu la même chose. La Bible nous donne une image, un portrait, une révélation de Dieu en accumulant au sujet de Dieu les arrêtats, par toutes sortes d'adjectifs, de noms, d'adverbes, et bien, petit à petit, nous voyons, c'est Dieu qui, dans sa révélation, nous donne un portrait de lui-même, une image de lui-même. C'est bien que la méditation de la Bible, dans la prière, et dans l'étude attentive de ce qui est dit, une étude de la Bible, peu à peu, nous permet de. Non pas de comprendre Dieu, puisque Dieu est incompréhensible, mais d'avoir une idée de Dieu, d'avoir un portrait de Dieu. Là, vous savez qu'en grec, le mot image et le mot idée ont la même racine. Une idée, c'est une image, c'est une idée. Et bien la Bible nous donne une idée de Dieu, la Bible nous donne une image de Dieu, et elle nous donne, la Bible, l'idée de Dieu que Dieu veut que nous ayons, ou l'image de Dieu que Dieu veut que nous ayons. Et alors, tous les arrêtages de Dieu, tous les traits de caractère de Dieu finissent par nous donner l'idée de Dieu. Et alors là, ça me ramène très rapidement au second commandement, qui est, vous le savez, « Tu ne te feras pas d'image de Dieu ». Et en effet, nous ne devons pas nous faire une image de Dieu. Mais nous devons recevoir l'image que Dieu nous donne de lui-même dans sa révélation. Je ne dois pas me fabriquer l'idée de Dieu, je ne dois pas me fabriquer l'image de Dieu, que ce soit une image visible ou une image dans ma tête, je ne dois pas me fabriquer l'image de Dieu. Les hommes ont la tentation toujours de se fabriquer un Dieu, de se faire une image de Dieu. Or, nous ne devons pas nous faire une image. Pourquoi? C'est parce que nous avons une image de Dieu dans l'Écriture sainte. Nous avons une image de Dieu dans Jésus-Christ. Eh bien, nous ne devons pas avoir d'autre image de Dieu que l'image que Dieu nous donne de lui-même. Hein? C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut être sûr qu'on a la vérité sur Dieu. Parce que ça, ce n'est pas la vérité que nous fabriquons, mais c'est la vérité que nous recevons. La foi reçoit l'image, le portrait, l'idée de Dieu que Dieu nous donne de lui-même, nous révèle de lui-même. Allez, vous voyez bien le point. Alors, parmi les attributs de Dieu, les théologiens, ils ont raison, distinguent, c'est pourquoi ils ont raison. Là aussi, vous voyez, de même que la distinction des attributs risque, si nous n'y prenons garde, de nous donner une fausseté si nous ne voyons pas que tout cela va ensemble, parce qu'il y a la simplicité de Dieu. Alors là aussi, la distinction que je fais, c'est une distinction qui nous est utile à nous. Hein, c'est la distinction entre les attributs incommunicables et les attributs communicables. Il y a les attributs incommunicables et les attributs communicables. Les attributs incommunicables soulignent la transcendance de Dieu. Les attributs incommunicables soulignent la transcendance. Et les attributs communicables soulignent l'immanence Qu'est-ce que ça veut dire? Incommunicable et communique. Ça veut dire qu'il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas communiqués à la créature et en particulier à l'homme. Tandis que les attributs communicables, ce sont des attributs qui existent de façon absolue en Dieu, mais qui peuvent exister et qui existent de façon relative en nous. Je prends un exemple de chant. Dieu est infini. Dieu est infini. Eh bien, l'infinité de Dieu, c'est un attribut incommunicable. Il n'y a aucune créature qui soit infinie. Mais parmi les créatures invisibles de Dieu, parmi les anges, il n'y a pas d'homme infini. Parmi les créatures humaines, il n'y a pas d'homme infini. Dieu seul est infini. L'attribut d'infinité est un attribut incommunicable de Dieu. Trotton, par exemple, un attribut communicable, bien j'ai parlé tout à l'heure de la sagesse de Dieu. Bien si vous voulez, Dieu est sage, absolument. Tandis que nous, au mieux, nous ne sommes sages que relativement. Et la sagesse, c'est un attribut communicable. Alors vous voyez bien, hein, l'infinité, par exemple, c'est incommunicable. Il n'y a que Dieu qui soit infini. Si il y avait une créature infinie, ça ne veut rien dire. Une créature infinie, ça veut dire un Dieu. Quelqu'un d'autre que Dieu serait infini, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu. Dieu seul est infini. C'est incommunicable. Mais par exemple, la sagesse, c'est un attribut communicable. Bon, alors, non. Voilà, rapidement, pour terminer, c'est donc la seconde partie de mon cours d'aujourd'hui, nous allons voir quelques-uns des attributs incommunicables de Dieu, et ensuite nous essaierons d'indiquer quelques attributs communicables. Alors, les attributs incommunicables de Dieu, la théologie en définit essentiellement quatre.
Il ne dépend de rien d'autre que de lui.
se suffit parfaitement. Tandis que les créatures, au lieu d'être A, C, sont A, B, A, B. Je vais mettre en majuscule A, A, B, exprès. A, B, A, B. Ça veut dire, au lieu d'être par elles-mêmes, elles ne sont pas un autre. A, B, A, B, ça vient par un autre. Prenez une étoile. Prenez une fleur, prenez un animal, prenez un homme, prenez une créature. Aucune créature n'a d'acidité. Aucune créature n'existe par elle-même. Aucune créature n'est une, sa propre loi. Aucune créature, toutes les créatures dépendent d'un autre. Et cet autre, bien entendu, c'est Dieu. Aucune créature ne se suffit, parce que la créature ne vit que de ce que Dieu lui donne d'être. Donc, vous voyez, l'idée d'indépendance, aucune créature n'est indépendante. Pourquoi je suis là devant vous? Pourquoi êtes-vous là devant moi? C'est parce que nous sommes tenus, vous et moi, par un autre, que nous dépendons d'un autre. Que nous sommes sous la loi d'un autre qui est Dieu. Donc vous voyez, Dieu seul est assez par lui-même. Parce que nous sommes abahaïons. Nous sommes dépendants d'un autre. Et nous avons vu ça en disant les choses autrement. Vous vous souvenez que je vous ai dit déjà, au moins pendant deux jours, si ce n'est pas plus. Et tant pis si je me répète, la pédagogie, je le répète toujours, c'est l'art de la répétition. Alors, Dieu est, nous nous existons. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est? Ça veut dire que Dieu est par lui-même. Je suis qui je suis, dit Dieu à Moïse dans la rencontre au buisson ardent. Je suis qui je suis. Parce que nous ne sommes pas, nous existons. C'est-à-dire que nous tirons notre existence d'un autre. Oui, ça revient au même mot pour la vérité. Je vous en ai déjà parlé tout autrefois quand je vous ai dit Dieu est. Il est, je suis. Tandis que nous ne sommes qu'à cause de lui. Parce que non seulement nous a créés, mais qu'il nous maintient dans l'existence. Existere. Vous avez appelé, vous venez le mot existere. Donc, la vie. Deuxième. Alors que. Où est-ce que c'est affirmé dans l'Écriture? Eh bien, c'est affirmé de main en main. Enfin, je vous donne par exemple quelques exemples au psaume 115 et au verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ou bien encore, au prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 18 et suivant. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, c'est un enfer qui la couvre d'or et soule des chaînettes d'argent. Mais donc, il y a un peu plus loin, ne le reconnaissez-vous pas, ne l'entendez-vous pas, nous ne l'avons pas annoncé dès le commencement, là nous n'avons pas compris ce que sont les fondements de la terre, c'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, etc. Il est dans les cieux comme une étoffe, et tout ça. Bon. Alors voyez, là c'est. Alors autre texte, vous pouvez vérifier, Actes 17, 25, Romains 11, 33, 36, je répète, Actes 17, 25, Romains 11, 33, 36, Apocalypse 4, 11. Deuxième vertu incognitable, l'immuabilité. Il faut faire très attention parce que souvent, on confond immuabilité et immobilité. C'est pas du tout la même chose. L'immuabilité, ça veut dire que Dieu est toujours parfaitement lui-même. Autrement dit,
pas. Dieu ne progresse pas. Dieu ne change pas. Dieu est là, il est toujours fidèle à lui-même. C'est peut-être la meilleure façon de définir l'humanité. Dieu est toujours fidèle à lui-même. Et ça encore, c'est dans la parole de Dieu à Moïse dans le buisson. Je suis qui je suis. Et Exode 3:14. Alors vous avez d'autres textes qui montrent bien ça. C'est Nombre, dans l'Ancien Testament d'abord. Nombre 23:19. Psaume